En vue de quoi le Christ est-il mort pour vous? En vue de quoi?
Le rachat de nos péchés.
Oui. Et encore?
Que nous obtenions la vie éternelle.
Oui. Par amour pour nous, oui. Mais pourquoi? Pour quoi?
Ah.
En vue de quoi?
Oui, d'accord.
Pour nous réconcilier.
Pour nous racheter pour Dieu son Père.
D'être réconcilié, oui. Racheté. Et Jésus nous a sauvés pour que nous entrions dans une vie nouvelle. D'accord? Ça, nous le savons. Souvent, quand on parle du salut, on parle du salut comme d'une porte qui nous fait passer de l'état ancien à une vie nouvelle, qui nous introduit à une vie nouvelle, n'est-ce pas? Et parfois, j'ai l'impression qu'on tourne autour de la porte et qu'on n'est pas assez clair sur qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte comme vie nouvelle. D'où ma question, pourquoi, en vue de quoi, le Christ est-il mort pour nous? Une des réponses fondamentales que nous trouvons dans l'Écriture, c'est un mot qui, quand je me suis converti, était un mot un peu louche dans certaines églises, c'est le mot liberté. L'apôtre Paul écrit dans Galates 5, versets 1 et suivant, « C'est pour la liberté que le Christ nous a libérés. » C'est fort quand même, c'est pour la liberté. Le Christ nous a libérés. Tenez donc ferme et ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage. Moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, le Christ ne vous servira de rien. Et je l'atteste, encore une fois, à tout homme qui se fait circoncire, il est tenu de mettre en pratique la loi tout entière. Vous êtes séparés du Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Quant à nous, c'est par l'Esprit que nous attendons de la foi la justice espérée. Car en Jésus-Christ, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais la foi qui opère par l'amour. Vous courriez bien, qui vous a arrêté en vous empêchant d'obéir à la vérité? Cette persuasion-là ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Moi, j'ai confiance en vous dans le Seigneur. Je sais que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en subira la peine. Je continue un peu plus loin, verset 13. Mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement que cette liberté ne devienne pas un prétexte pour la chair. Par amour, faites-vous plutôt esclaves les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez, si vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. Je dis plutôt, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez jamais ce que la chair désire. La question de la liberté travaille depuis toujours l'humanité. Il y a eu, il y a toujours beaucoup de combats pour la liberté. Dans l'histoire, cela s'est fait généralement contre l'oppression des puissants, des rois, des nobles, mais aussi contre les conditions de vie comme la pauvreté, qui est une belle prison. Dans notre société, le progrès nous a libérés d'un certain nombre de servitudes. La démocratie nous a donné de la liberté politique. Et la croissance de l'économie dans les pays comme le nôtre nous a libérés de l'obsession de la survie alimentaire. N'empêche que tout se passe comme s'il y avait toujours d'autres libertés à conquérir. Comme si dans notre société, nous n'étions jamais suffisamment libres. L'homme et la femme moderne parlent beaucoup de liberté et revendiquent haut et fort leur droit à la liberté dans une course qui ne semble pas avoir de fin. La Bible aussi parle beaucoup de liberté. Même si, comme je l'ai dit avant, c'est un mot qui, en tout cas à l'époque où je me suis converti, semblait un peu louche parce qu'on avait toujours peur, on semblait que la liberté était quelque chose de tellement, qui pouvait être tellement dangereux qu'on nous prévenait toujours qu'il fallait faire attention. enfin les plus anciens parmi nous, ceux qui ont 50 ans et plus, comprennent de quoi je parle. Mais la Bible parle beaucoup de liberté. Et pas d'abord en parlant de l'homme, mais en parlant de Dieu. Parce que Dieu est un libérateur. Où est-ce qu'on voit que Dieu est un libérateur ? Dans la Bible. Nulle part ? Dieu est un libérateur, il libère son peuple de l'Égypte. Article 1 de la ou article 2 de la confession de foi des Juifs. C'est un libérateur. L'expérience profonde du peuple, c'est que Dieu est un libérateur, qu'il a sauvé son peuple de la misère, de l'esclavage, de l'oppression économique et politique. Mais Dieu est aussi un libérateur car il veut nous libérer du péché par Jésus-Christ et par le don du Saint-Esprit. Il ne veut pas seulement nous libérer des conséquences du péché en nous pardonnant et nous donnant la vie éternelle, en nous sauvant de la mort, mais aussi pour nous ouvrir à une autre manière de vivre. Et ça, on ne le dira jamais assez. À une autre manière de vivre. Ceci dit, arrêtons-nous un moment sur qu'est-ce que la liberté. C'est un mot piège par excellence. Chacun a tendance à y mettre ce qu'il veut, surtout aujourd'hui. Qu'est-ce que la liberté ? Petit tour d'horizon. Il y a toujours eu des personnes pour qui la liberté consistait à faire ce qu'on voulait, au moment où on le voulait, sans trop tenir compte des autres personnes, ni de l'environnement. La morale classique a lié la liberté à la maîtrise de soi. Ça paraît un peu démodé aujourd'hui, mais la morale classique a lié la liberté à la maîtrise de soi. Montaigne, philosophe français du XVIIe siècle, écrit « La vraie liberté est de pouvoir toute chose sur soi. » Ok ? C'est un peu du vieux français, mais vous comprenez le sens. Hein ? Le pouvoir, c'est de pouvoir toute chose sur soi. C'est la maîtrise de soi, en fait, hein, dont il parle. La morale traditionnelle a aussi lié la liberté à l'attention aux autres, ce qui, dans une formulation moderne, donne la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Ou, comme le dit la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, la liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ça, c'est, si vous voulez, la morale classique. Aujourd'hui, l'accent dominant de la définition s'est déplacé. Voici la première phrase que nous trouvons dans Wikipédia. De façon générale, la liberté est le concept qui désigne la possibilité d'action ou de mouvement sans contrainte. Vous sentez la modernité du truc ? Sans contrainte. Ça, c'est l'expression clé qui définit la liberté telle qu'elle est comprise majoritairement dans notre société. Le rêve adolescent semble être devenu l'horizon de la liberté pour toute la société. C'est les ados qui veulent faire tout ce qu'ils ont envie sans contrainte, être pris pour des adultes et en même temps se conduire comme on a envie, sans faire attention aux autres. On a tous eu une phase comme ça. Et visiblement, c'est devenu l'horizon de notre société en matière de liberté. Mais revenons à notre texte, Galates 5. Et quelques mots sur le contexte. Paul s'adresse à des chrétiens qui ont découvert l'Évangile, le salut en Jésus-Christ, la liberté en Jésus-Christ, et qui ont rejeté tout cela pour revenir à ce que Paul appelle l'esclavage, en l'occurrence l'esclavage de la loi. Ça veut dire quoi ? Au lieu de grandir dans la nouveauté de l'Évangile, ils sont revenus au légalisme juif qui avait fait de la loi de Moïse un système qui organisait l'ensemble de la vie et qu'il fallait simplement appliquer sans trop y réfléchir. Et c'est cette obéissance légaliste qui nous sauvait. D'accord ? Ils sont revenus en arrière, ils sont revenus à la loi de Moïse. Dans le judaïsme de l'époque de Jésus, et depuis 2-3 siècles au moins, la théologie juive de l'époque avait fait de la loi de Dieu simplement une série de commandements. Et ils avaient décliné la loi de Dieu en 613 commandements. Exactement. Si jamais vous voulez tous les connaître, faites-moi signe, j'ai un bouquin qui les dit, mais enfin, vous trouvez ça aussi sur Internet. Et donc, la loi de Dieu était simplement une collection de commandements, parmi lesquels des commandements plus importants que d'autres, comme la circoncision, le sabbat, etc., mais 613 commandements. Et donc, c'était devenu une espèce de prison, parce que globalement, tout ce qu'on pouvait, tous les aspects de la vie, la façon de manger, de se laver, de s'habiller, tout ça a été réglé par la loi. Avec des jours spéciaux comme le sabbat où il ne fallait pas faire grand-chose, etc., etc. Et les Galates qui avaient découvert le Christ et la liberté par rapport à la loi sont revenus à cet esclavage. Des gens qui ne veulent pas être libres ou qui ne veulent plus être libres, ça existe. Eh ben oui, ça existe. Même si on ne sait pas ce qui a poussé les Galates à revenir en arrière et à se remettre sous la loi. Est-ce que c'était la force de l'habitude? Est-ce que c'était la peur de la liberté et de ses excès? Est-ce que c'est la peur de la responsabilité qui va avec la liberté? Si on est libre, on devient plus responsable de ses choix et de ses actes. Alors que s'il suffit bêtement d'obéir à des règles, on se déresponsabilise et on peut dire « j'ai fait ce qui était écrit ». Vous voyez? Est-ce que c'est ça qui leur fait peur? On ne sait pas. Est-ce qu'ils avaient besoin d'un cadre plus rassurant? Est-ce qu'ils avaient peur de se distinguer? On ne sait pas. Être libre, ce n'est pas si simple. Ça fait pourtant partie de notre vocation chrétienne, car, répétons-le, c'est pour la liberté que le Christ nous a libérés, la phrase qui démarre notre passage et qui est quelque part le verset clé de notre texte. Mais en quoi le Christ nous libère-t-il? Ben, je dirais d'abord que le Jésus nous libère car il nous met en relation avec Dieu et nous révèle ainsi notre identité profonde. Nous sommes les enfants du Père Céleste, qu'on s'en rende compte ou pas, mais une fois qu'on s'en rend compte, une fois qu'on découvre ça, ça change pas mal la vie et ça nous libère d'un ensemble de choses. Le fils prodigue, vous le connaissez celui-là? Lui, il pensait que la liberté c'était ailleurs. Je quitte mon père et je fais enfin ce que je veux. Merveilleux, non? La teuf permanente, avec des copains, avec des filles, bon repas, bon bain, je ne sais pas quoi encore, jour après jour. Ça, c'est la vraie vie. Vous faites une enquête, il y a encore des gens qui pensent ça autour de nous. Hein. Beaucoup, sans doute même. Et puis l'expérience lui a montré que tout ça, c'est bien joli, mais à un moment, il est arrivé au bout. Et arrivé au bout, il a été obligé de réfléchir. Le texte dit qu'il est entré en lui-même. Il a commencé à réfléchir à sa vie, il a commencé à réfléchir à la réalité dans laquelle il était. Et en réfléchissant, il a commencé par voir les choses un peu différemment. Et il s'est dit, mince, c'est quand même chez mon père que j'étais le mieux. Et je vais revenir chez mon père, même si je suis qu'un seul, même s'il ne me prend que comme serviteur, ça sera toujours super parce que je serai près de lui. Parce que je serai près de lui. Nous connaissons la suite, le Père Céleste accueille son fils, le prend dans ses bras, lui fait la fête. Jésus nous introduit dans l'amour du Père. Un amour qui accueille, qui ne juge pas, qui n'exige pas de nous quelque chose pour être aimé. Qui n'attend pas de nous qu'on soit des super chrétiens, des super héros, mais d'abord un amour qui nous accueille tel que nous sommes. Et ça, c'est libérateur. Si vous n'êtes pas convaincu, demandez à des enfants qui vivent sous la pression de l'exigence que les parents mettent sur eux. Réussir les études, avoir un bon boulot, et blanc, et blanc, et blanc. Il y en a des comme ça. Et je veux dire que certains enfants souffrent énormément de ce genre de choses. Heureusement, notre Père Céleste n'est pas comme ça. Il fonctionne sur l'amour et la gratuité, et de ça nous avons besoin pour être libres. Mais c'est aussi un amour qui nous appelle à nous tenir debout et à marcher comme des enfants du Père, qui nous invite à sortir de nos étroitesses, de nos préjugés, de nos dépendances, et à marcher dans une autre manière de vivre, par la foi, dans la confiance que Dieu nous conduit, si nous le laissons nous enseigner et nous guider. Suivre Jésus, c'est un chemin de liberté, mais c'est un chemin exigeant, car en essayant de suivre Jésus, nous sommes confrontés à nous-mêmes, à une partie de nous-mêmes qu'on oublie facilement, à nos pesanteurs, à nos blocages, peut-être à nos addictions, à nos peurs, ça c'est sûr, aux blessures de notre histoire personnelle, qui pèsent sur nous, à nos habitudes, à nos préjugés, etc., etc. Suivre Jésus remet en question une série de choses qu'on n'aurait peut-être pas perçues autrement. Peut-être que l'apôtre Pierre n'aurait jamais su à quel point il était habité par la frousse s'il n'avait pas suivi Jésus. S'il était resté pêcheur toute sa vie, pas trop pêcheur, avec des ouvriers, une vie tranquille, bien sur les rails de son métier, dans la tradition familiale, peut-être qu'il n'aurait jamais remarqué tout ça de lui. Puis en suivant Jésus, il se trouve dans des situations où remonte toute une série de choses, où il est souvent épaté par Jésus, et parfois il est effrayé par Jésus. Quand Jésus a calmé la tempête, les apôtres étaient effrayés. Ils étaient étonnés, effrayés. Oui. Et puis évidemment, dans le jardin, malgré la certitude qu'il mourrait plutôt que trahir Jésus, il a trahi Jésus, il a découvert quelque chose sur lui-même, qu'il n'aurait jamais découvert autrement. Si nous voulons être des disciples de Jésus, nous nous retrouvons confrontés à des choses qui résistent en nous. Non ? Qui résistent en nous. Et en même temps, en affrontant cela, et en, par la grâce de Dieu, et par la communion avec le Christ, et par l'œuvre de l'Esprit, nous pouvons progresser par rapport à ces limites que nous découvrons en nous. Jésus nous invite et nous aide à être, nous invite, mais aussi nous aide à être plus vrais avec nous-mêmes. Et nous voyons bien dans le sermon sur la montagne, quand il parle de dire la vérité. Quand il dit, c'est pas seulement ce que tu fais qui compte, mais c'est aussi ce que tu penses. Tu peux être très gentil et puis avoir dans ton cœur plein de haine pour ton prochain. C'est aussi ce qui se passe en toi, dans ta tête, pas seulement ce que tu montres aux autres. Et on pourrait multiplier les exemples. Jésus nous invite à un chemin qui met en lumière, pour peu qu'on soit honnête, des choses qui ne collent pas bien en nous, et qui sont aussi comme des sortes de prisons. Suivre Jésus nous aide à voir clair par rapport aux déterminismes qui sont les nôtres, de l'éducation, qu'elle soit familiale ou même d'éducation d'église, ou déterminismes liés aux modes, aux préjugés, et à toutes sortes d'autres choses. La foi qui libère est un chemin, il n'y a pas de baguette magique qui nous transforme en une seconde de citrouille que nous sommes en beau carrosse. Non, c'est une marche avec Jésus qui petit à petit nous change, pour peu qu'on soit d'accord qu'il le fasse. C'est cette marche que nous voyons dans les évangiles, avec les disciples qui suivent Jésus et qui petit à petit grandissent avec lui. C'est aussi à cette marche que Paul fait allusion dans notre texte, Galates 5, verset 7, « Vous courriez bien, qui vous a arrêté ?» Qui vous a arrêté ? Le chemin avec Jésus est aussi un chemin personnel où je me découvre petit à petit, je l'ai déjà dit, et où je trouve de plus en plus clairement le sens de ma vie. Le travail de l'esprit modifie des choses en moi, augmente ma soif de vie, enracine l'amour de la vérité, et fait vivre des choses nouvelles, en particulier dans l'Église. Les peurs reculent, je peux travailler des choses pour être plus libre par rapport à mes blocages, etc., etc. La liberté chrétienne, c'est aussi découvrir des repères et des règles pour vivre de façon saine et adhérer pleinement, librement à des principes et à des valeurs. Découvrir que la liberté, c'est pas forcément faire n'importe quoi quand j'ai envie, comme j'ai envie. C'est parce qu'il y a aussi des conséquences néfastes à ce que je peux faire. L'apôtre Paul dit cela quand il dit aux Corinthiens « Tout m'est permis, d'accord les gars, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais moi je ne me laisserai pas redevenir esclave par quoi que ce soit. » Vous connaissez ce texte, hein ? La liberté, c'est découvrir ce qui est vraiment bon pour soi et être capable de se fixer des règles pour se protéger. Parce que la liberté, c'est aussi fragile. Et qu'on peut la perdre quand on se laisse piéger par des addictions, on se laisse piéger par un égoïsme trop fort, etc., etc. Ce chemin vers la liberté est compliqué, mais il a ça de super, c'est que nous le vivons dans l'amour de Dieu, dans la certitude que Dieu nous aime. C'est cet amour-là qui m'aide à faire des choses que je n'aurais pas fait autrement. Parfois, quand on avance avec Jésus, on est un peu comme Pierre qui marche sur l'eau. Et on se dit, ah, j'ai jamais fait, j'ai un peu peur, je ne suis pas sûr que je vais y arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas comment je vais m'y prendre, mais je sais que Dieu m'appelle à ça. Et donc on a parfois ce sentiment de marcher sur l'eau. Et en même temps, on le fait parce qu'on se dit, Dieu ne me laissera pas tomber. Si on n'avait pas cette certitude-là, on ne le ferait pas. Le chemin de la liberté, c'est aussi un chemin communautaire. C'est un chemin qui nous sommes appelés à vivre au sein de l'Église avec les frères et sœurs. C'est aussi en parlant avec d'autres chrétiens que je grandis dans une juste compréhension des choses. En débattant, en réfléchissant ensemble. C'est aussi en priant ensemble les uns pour les autres que nous avançons dans nos cheminements personnels. Parfois, l'un ou l'autre peut me soutenir et m'aider dans un moment plus difficile. La liberté, c'est aussi quelque chose qu'on se donne les uns aux autres dans la vie communautaire. Chacun d'entre nous, dans la communauté, par sa manière d'être en relation, a de l'influence sur les autres. Cette influence n'est pas forcément liée à la prise de parole, elle n'est pas réservée dans l'Église à ceux qui parlent devant les autres. Notre façon d'être présent ou pas, de sourire ou pas, d'aller vers les autres ou de rester à l'écart, les paroles que nous disons et la façon dont nous écoutons dans nos entretiens personnels, notre manière d'être, verbale ou non verbale, influence les autres, que nous ayons conscience ou pas. Et l'apôtre Paul nous invite à avoir une attitude consciente. Une attitude consciente, les uns avec les autres. C'est ce qu'il dit à la fin du texte quand il écrit « Mes frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement que cette liberté ne devienne pas un prétexte pour la chair. Par amour, faites-vous plutôt esclaves les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez, si vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. » Donc ce que disent ces versets est assez impressionnant. Nous avons un grand pouvoir sur la vie communautaire, celui de contribuer à sa construction ou de contribuer à sa destruction. À travers ces phrases, Paul pose une question centrale adressée à la liberté. C'est libre, ok, mais pour quoi faire? La liberté n'est pas un but en soi. Être libre pour être libre, c'est pas un but en soi. La liberté est une condition nécessaire pour aller vers autre chose, mais c'est pas un but en soi. Qu'est-ce qu'on fait après? À la fois humainement, personnellement, j'ai envie de dire, et à la fois collectivement. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Et c'est un gros défi. D'ailleurs, on pourrait dire que l'actualité politique nous le montre régulièrement. C'est très bien de chasser des dictateurs comme Kadhafi ou Moubarak ou de voir tomber le mur de Berlin. Mais qu'est-ce qu'on fait avec après? Une fois qu'on est libre, ouais, qu'est-ce qu'on fait après? C'est là qu'on se rend compte que c'est vachement compliqué. Et d'ailleurs, on n'y arrive pas vraiment. Nos sociétés n'y arrivent pas vraiment. On a changé Moubarak pour un autre dictateur. En Libye, c'est le désordre complet. Parce que, une fois qu'on est libre, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on vit ensemble? Comment on construit les choses? Bon, on peut construire les choses, on peut vivre la liberté d'une telle manière qu'on finit par s'entretuer joyeusement. Ou on peut construire les choses ensemble, mais ça c'est plus difficile évidemment. Et donc cette question, être libéré par le Christ, mais pourquoi faire? Dans la communauté chrétienne. Pour Paul, la réponse est évidente. Eh bien, c'est pour vivre l'amour fraternel. Aime ton prochain comme toi-même, c'est toute la loi, dit-il. pour construire ensemble une communauté fraternelle, basée sur l'amour. À condition de bien comprendre que chez Paul, comme dans l'ensemble du Nouveau Testament, l'amour, ce n'est pas d'abord une affaire de sentiments et d'émotions, mais c'est une façon de se comporter. C'est des façons de se comporter. Et Paul résume dans notre texte cette façon de se comporter par des mots qui peuvent nous choquer. Faites-vous plutôt esclaves les uns des autres. Le mot esclave souligne le service et exprime le fait que aimer son prochain, ça passe par le fait de se servir, de le servir. Et ça marche si tout le monde joue le jeu. Ça marche pas bien s'il y en a qui trichent et qui pensent qu'ils sont juste dans la position d'être servis et jamais servir. Ça marche pas, évidemment. Mais dans la vision d'une vie collective basée sur la réciprocité, sur les uns les autres, comme dit l'apôtre Paul souvent, nous sommes serviteurs les uns des autres. Voilà une communauté fraternelle qui grandit dans cette dimension-là. Faites-vous esclaves les uns des autres. Il faudrait qu'on s'arrête là-dessus et qu'on y réfléchisse pendant des heures, parce que ça pose plein de questions et c'est pas si simple, mais il s'agit d'un style de vie dans lequel chacun se décentre de soi pour se centrer aussi sur les autres et tenir compte des besoins et préoccupations des autres, et de voir comment ensemble on peut contribuer à l'épanouissement de la foi et de la vie des uns et des autres. Ça, c'est le but que l'apôtre indique à la liberté chrétienne. Il faut préciser que notre comportement n'est jamais neutre. Notre comportement n'est jamais neutre. Soit nous avons une attitude qui influence positivement notre environnement, soit nous avons une attitude qui influence négativement notre environnement, mais il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas un lieu où on serait en dehors et où on serait spectateur des choses. On est acteur dans nos réalités, et notre manière d'être acteur, elle fait du bien ou elle fait du mal, autour de nous. On ne peut pas sortir de la réalité et faire comme si on avait des comportements sans influence sur les autres. Même si on se met à l'écart, ça influence le groupe. Même si je rentre chez moi maintenant, je rentre chez moi après le culte, et puis je m'enferme dans ma chambre jusque demain, je peux toujours dire je fais rien de mal, je fais rien de bien. Dans la réalité, ça a une influence sur les autres, qu'on le veuille ou pas. Donc c'est important qu'on réalise cela et qu'on choisisse et qu'on réfléchisse à comment notre attitude peut-elle être positive, constructive, dit l'apôtre. Pour les autres. Par amour, faites-vous plutôt esclaves les uns des autres. Plus facile à dire qu'à faire. Et c'est justement quand nous essayons d'être en relation avec les autres d'une manière positive que nous remarquons le mieux que nous sommes habités par des réalités, des sentiments, des réflexes qui nous poussent parfois dans l'autre direction. C'est dans nos relations que nous expérimentons la réalité en nous de ce que Paul appelle la chair. Des réalités que nous ne maîtrisons pas toujours. Paul le sait bien, Dieu le sait bien. Et c'est justement parce que nous sommes dans des réalités que nous ne maîtrisons pas toujours que nous avons besoin de grandir dans la liberté. Dieu nous donne son esprit pour travailler notre être intérieur. Dieu nous donne son esprit pour travailler pas seulement nos idées, nos pensées, nos manières de voir, mais aussi de travailler notre psychologie, ce qui nous habite au plus profond. L'esprit est capable de travailler les profondeurs de l'être humain. Il est le seul qui est capable de faire ça. Et c'est aussi en cela que l'Évangile est une puissance. Parce que c'est une puissance qui peut opérer par l'esprit des changements profonds en nous. À condition qu'on le veuille, évidemment, et qu'on soit d'accord. Il est temps de conclure. La liberté est une rencontre, celle de Dieu, qui nous donne notre identité. La liberté est un projet de vie personnel, un chemin exigeant mais vrai. La liberté est un cheminement communautaire. Nous, avec cette question, la liberté pour quoi faire, avec cette invitation à construire une communauté fraternelle, par le décentrement, par le service. Et tout ça est rendu possible par le Saint-Esprit. C'est pourquoi Paul termine, le texte que j'ai lu se termine par « Marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez pas ce que la chair désire. » Qui est intéressé par cette liberté ? Amen.